Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Cette semaine, le collectif est un duo, en l'occurrence Nicolas et...
Farouk, ça va mieux quand le micro il est à régie.
Oui, effectivement, il faut idéalement ouvrir son micro quand on veut parler à la radio.
Il était ouvert.
Mauvaise
option.
Alors voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? On a de la musique, mais pas seulement de la musique. On va aussi parler d'Olympique, parce qu'on le sait, ces jours-ci, en fait, mercredi et jeudi, la flamme olympique est à Québec et il y a eu quelques éléments critiques à apporter autour de la flamme olympique et on va en parler à voix de fait. On a aussi, on va parler de finances publiques. Les anarchistes parlent pas souvent de finances publiques, mais bon, il y a tout un débat sur les finances publiques en ce moment au Québec. On en a touché un mot la semaine dernière avec Guillaume et on va continuer là-dessus, en fait, avec, en fait, c'est le Frappru qui a sorti des chiffres et des choses intéressantes, des informations qui sont apparaîtes dans le journal Infobourg. Et on va revenir là-dessus, en fait, sur l'impasse des finances publiques, la crise après la crise. On va aussi on va vous parler d'un bouquin qui vient de sortir chez Lux, Révolutionnaire du Nouveau Monde. Et finalement, nos plugs habituels. Dont on va parler notamment de droit de parole, des manifestations dans le cadre des consultations sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté du gouvernement libéral, d'une sortie qu'on a à vous proposer dimanche prochain et autres choses comme ça. Tout ça avec la meilleure musique militante de Québec. Non. Ça, c'est pas moi, c'est Farouko qui fait ça.
Pas toujours, toujours militante. Des fois, c'est juste bon.
Oui, des fois c'est juste bon, mais là, à un moment donné, on peut pas tout avoir. Hein.
Et non.
Pour le nombre de musiques militantes pas bonnes qu'il y a, il faut bien qu'il y ait de la musique bonne, pas militante.
C'est important.
C'est important. D'ailleurs, parlant de musique, tu nous as concocté quelque chose. Vers quoi on s'en va?
Ben là, on s'en va dans ta demande spéciale.
Dans ma demande spéciale. Alors, si c'est pas bon, c'est la faute de Nicolas, mais c'est excellent, en fait.
Okay.
C'est ma découverte du moment. Kate Kuna. On va écouter Joyeuse. Une pièce tirée d'un album qui est sorti l'année passée, ou même peut-être il y a 2 ans, qui s'appelait Les Années Monsieur. Kate Kuna, c'est l'ancien chanteur des Goules sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec.
Elle s'appelle Fillette au grand yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse de Saint-Gueux, la vie est belle sous ses jupons, elle chante un air de rhum anglais quand elle se cabre, chaude et douce comme un grand serpent, des marais pelés dorés de perles roussées, elle est magique le temps de rêve, elle est moche le temps d'une vie, jamais goûté l'eau de ses lèvres quand aucun mot n'en jaillit, elle est belle et gonfle mon cœur de plaine et de grands oiseaux bleus, qui s'en mêlent et qui me font peur quand j'entends leur rire s'amoureux. Si tu pouvais mourir, je t'aimerais 100 fois pire, si tu pouvais. Jamais j'aurais faim, j'aurais soif, j'aurais froid et chaud. Comme un petit vent blanc, libre, triste et content Il s'appelle les marchands de temps, il s'appelle les condamnés de leur compagnie. Mais ton poison, il me sourit, il me piétine, il m'embrasse ou me carabine. Ils ont des idées et des mots qu'ils bavent après son ou de beau. Et que peut sans se demander s'ils méritent eux-mêmes de rester. Balance à leur rejetant la marche à suivre, être un con. Ils sont honnêtement et gentils, cherchent le bonheur à tout prix. S'ils se cachent dans un frigo, ils en achèteront le plus gros. Si vous pouviez mourir, je vous aimerais 100 fois pire. Si vous pouviez tous vous entretuer, j'aurais faim, j'aurais. J'aurais froid et chaud, comme un petit vent blanc, libre, triste et content, et content. Et puis à moi, des mal aux yeux, des mal au cœur et au poumon. Et puis à moi, le chien galeux qui se bouffe au fond de sa prison, moi qui sourit ou qui piétine, moi qui embrasse ou qui carabine, moi qui décide. Que je bave après son ou pour moi, avec le con qui me déteste, moi le grand oiseau et le bal. Moi le billard rangé, le peste et moi le bien, mais solitaire, moi qui cache surtout et sourire, fuit en cherchant mon copain. Moi qui s'espère des grands soupirs, mais qui est plus capable de se sentir. Si je pouvais mourir, je m'aimerais 100 fois pire. Si je pouvais.
Alors, Québec est, semble-t-il, gagné par la ferveur olympique. En tout le monde ici, on se fie aux médias. Nous étions sur les lieux mercredi soir et, bon, la ferveur n'était pas au rendez-vous. Il n'y avait pas vraiment grand monde, en fait, dans les rues de Québec.
Non, plus de police que d'autres choses.
À la télévision, ça va sûrement avoir l'air...
Immense,
populaire et tout. Mais bon... sur le chemin de la flamme, il n'y avait pas grand monde parce que la flamme est à Québec. La flamme olympique, il y a un relais de la flamme qui passait à Québec et il y avait des protestataires qui voulaient amener leur grain de sel critique là-dedans. Alors, c'est une espèce de comité collectif ad hoc, Flamme Québec, en fait, qui avait appelé un rassemblement en Hauteville, à Place Diouville, mercredi 18h, pour amener justement une perspective critique, là, allumer la flamme de la résistance dans toute cette histoire-là de Jeux olympiques. Alors, il y a des traits qui ont été passés, il y a peut-être quoi, une trentaine de personnes en tout?
En tout et partout, ouais, pas ouais, plus.
Une trentaine de personnes qui se sont pointées avec une bannière, un beau tambour.
Ah, mais il y avait plus de manifestants et de manifestantes que de supporters, en tout cas, à notre coin de rue.
C'est sûr que sur notre coin, il y avait plus... Nous, on était au coin du Frein et Saint-Jean, et effectivement, on était pas mal les seuls à être là, à part les passants, là, les gens qui revenaient de patiner. Puis...
les seuls qui nous surclassaient, c'était la police.
Oui, la police qui était très nombreuse sur place. Alors, donc, nous, on était là pour distribuer des tracts de l'information critique sur ce qui se passe finalement par rapport à ça. Alors, le relais de la flamme, qu'est-ce que c'est? C'est un coup de publicité de 25 millions de dollars qu'utilise le nationalisme et une imagerie bon enfant pour faire la promotion des Jeux olympiques qui vont avoir lieu, comme on le sait, à Vancouver, du 12 au 28 février prochain, les Jeux olympiques d'hiver. Alors, c'est une imagerie bon enfant qui est utilisée pour ça. Ça débute en octobre, le relais, et ça va passer, en fait, d'ici au mois de février, dans plus de 1000 communautés au travers du Canada, 45 000 kilomètres. Elle est à Québec, mercredi et jeudi. Elle va être de retour à Vancouver au début des Jeux de février. Alors, en soi, outre l'opposition qu'on peut avoir, les critiques qu'on peut avoir par rapport aux Olympiques, il y a, déjà avec la flamme en soi comme symbole, il peut y avoir des critiques, parce que même si le comité organisateur des Jeux olympiques de Vancouver affirme que l'histoire de la flamme olympique est sacrée, que la flamme symbolise la paix, la fraternité, l'amitié entre les peuples, c'est un peu douteux quand on sait d'où ça vient.
C'est révisionniste, voire négationniste.
Oui, parce que le relais de la flamme a été conçu pour les Olympiques de 1936 à Berlin. Ça n'existait pas avant ça. Et ça a été utilisé, en fait, dans des films de propagande nazie. C'est une idée, en fait, de la réalisatrice du Triomphe de la Volonté, qui disait que ça ferait des belles images et que ce serait génial pour faire la propagande du régime. Alors voilà, c'était...
Ben, c'est ça aussi cette année.
Oui, c'est ça aussi. C'est très clair. La flamme était précédée à Québec d'un troc For a Better Canada.
Avec, ouais, c'est RBC.
Ouais, c'était RBC, puis c'était des danseurs bizarres.
C'est le camion Coke.
Puis après ça, il y avait le camion Coke. Ouais. Québec salue la flamme. Et donc voilà, c'est ce qui se passait à Québec, la flamme, puis il y a des gens un peu partout au Canada qui se disent que bon, ben, tant qu'à avoir la flamme qui se pavane à travers le pays, c'est une opportunité intéressante pour informer la population des dommages collatéraux des Jeux en Colombie-Britannique. Alors on dit du côté des organisateurs que les Jeux olympiques c'est comme Noël. Ça peut toujours prétendre avoir une noble origine, mais les racines sont désormais tellement nouées aux intérêts commerciaux qu'il est difficile de trouver qui que ce soit qui ne tente pas d'en profiter. Et contrairement aux célébrations de Noël, les Olympiques ne sont pas supportés par des PME, mais par des consortiums qui construisent des autoroutes, des stades, des hôtels et des multinationales qui, bien que prétendent parader pour répandre les bienfaits olympiques, ils chevauchent en fait le taureau déchaîné des intérêts corporatifs envahissant des territoires autochtones aux frais des contribuables. Parce que ça, c'est la première raison de l'opposition, en fait, des gens du mouvement d'opposition populaire par rapport aux Jeux olympiques
d'hiver de Vancouver. C'est pas réglé le cas d'Esther.
Non, c'est ça. C'est la majorité des terres en Colombie-Britannique n'ont jamais été cédées par les Premières Nations. Il n'y a pas eu de traité. Et donc, il y a du en fait, pas mal tout ce qui s'est construit là, en dehors de Vancouver en tant que tel et sur des terres qui sont encore contestées, qui font encore l'objet de négociations entre les Premières Nations et le gouvernement de la province, parce qu'il y a un processus de négociation qui existe depuis le milieu des années 2000 entre les Premières Nations et le gouvernement. Et donc, La grande majorité n'a pas été cédée, puis une occupation illégale. Selon la loi canadienne, les terres appartiennent aux Autochtones tant qu'elles n'ont pas été cédées par traité. Et même en tenant compte des traités qu'on jugera aujourd'hui frauduleux, il y a juste une petite partie qui a été cédée. Comme par exemple, le ski, les pistes de ski sont sur des terres autochtones. Évidemment, c'est sûr qu'en organisant, en créant une montagne olympique et en organisant des centres de ski olympiques, c'est sûr que ça va être difficile, si jamais traité il y a, de redonner à ces terres-là leur aspect d'origine. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point qui est soulevé par les protestataires et qui est très important, c'est toute la question des droits et libertés et de la sécurité. Alors, c'est énormément d'argent qui sont dépensés pour la sécurité dans le cadre des Jeux olympiques. On parle de 1 milliard de dollars au Canada qui est dépensé pour assurer la sécurité des Jeux olympiques, alors qu'on parlait au départ de 269 millions de dollars ou une affaire comme ça. C'était vraiment...
C'est toujours bien moins.
Ouais, c'était beaucoup moins que ça, sauf qu'on est rendu à une affaire de fou. On estime que 16 500 militaires, douaniers, policiers municipaux, agents fédéraux et agents secrets seront présents à Vancouver. Et donc, c'est complètement hallucinant. On parle de vraiment 1 milliard de dollars. Et déjà, on voit des dommages collatéraux de ça. Il y a, en fait, des droits qui sont acquis au Canada. Le droit d'être critique, le droit d'avoir une opinion différente sont bafoués.
Le droit de manifester.
Le droit de manifester et tout. Alors, pendant la période olympique à Vancouver, le droit à la dissidence est à toute fin pratique suspendu. Il y a par exemple un arrêté municipal qui va permettre à la police de retirer dans les 24 heures sans mandat tout signe, panneau, affiche, drapeau critique des Olympiques qui serait affiché aux fenêtres des résidents. Maintenant, ils vont avoir le droit.
C'est dans ta maison.
Dans ta maison, c'est ça. Ils vont avoir le droit. Et donc, c'est ça, il va falloir montrer un visage lisse. Et déjà, le Service canadien de renseignement et de sécurité est en train depuis plusieurs mois, mène une enquête à la grandeur du pays pour connaître les intentions des opposants. Il y a des gens qui ont été visités jusqu'à Québec, à Sherbrooke, à Montréal. Il y a même des gens qui ont été à Vancouver. Il y a des gens qui ont été arrêtés en pleine rue et amenés pour se faire poser des questions et tout. Alors ça, c'est un gros problème au niveau de la sécurité. Concrètement sur le terrain, bon, c'est sûr qu'il y a toute la question de la distance et tout, mais concrètement sur le terrain, la sécurité, ça se traduit aussi par un nettoyage social intense du centre-ville de Vancouver.
C'est le 400e fois 1000.
Oui, c'est le 400e fois 1000 maisons. On balaye. Vancouver a, en son centre, le quartier le plus pauvre au Canada. C'est vraiment une donc.
Ils sont bien retardés. Ils ont laissé ça en plein milieu de la ville.
C'est, oui,
ils devraient faire comme à Québec.
Mais là, c'est des junkies, c'est de la prostitution, c'est beaucoup d'itinérance. C'est vraiment... En fait, c'est la seule ville au Canada où on peut dormir dehors, même l'hiver. Et donc, ça a un impact majeur sur l'affluence. Et ce quartier-là est quadrillé actuellement complètement par la police. Et on veut balayer tout ce monde-là pour les enlever à la vue.
Il faut pas que ça se voie.
On va déménager un quartier au complet.
Les pauvres, c'est pas dans l'esprit olympique, la pauvreté.
Oui. On détruit des logements abordables pour les remplacer par des logements de luxe.
C'est bien plus payant.
Oui, à Vancouver. On parle d'une construction de plus de 5000 condos. On est en train de vraiment massivement changer le visage de la ville. Donc ça, c'est des impacts. Et finalement, tout ça, en plus, se fait avec des fonds publics. Donc, c'est tout un ensemble de raisons pour critiquer ça. À Québec, on a une raison supplémentaire de sortir parce que, on le sait, on a un comité qui a été formé par le maire et les big shots de la ville pour éventuellement avoir des Jeux d'hiver.
On paye une grosse aide sociale à encore trois administrateurs.
Là, je ne sais plus combien, mais reste qu'il y a un comité qui commence à s'activer pour que Québec ait les Jeux olympiques d'hiver, elle aussi, à un moment donné. On avait raté notre coin en 2002. C'est un référendum, hein?
Bien content.
Mais cette fois-ci, on voudrait revenir. Et on peut se demander, d'ici 2030, est-ce qu'on peut s'inquiéter du fait que nos élites locales veulent avoir les Jeux olympiques d'hiver d'ici 2030? Ben nous, on pense que oui. Parce que si les Olympiques sont une manne pour les capitalistes qui, comme à Québec, ont un besoin là, d'une offre constante de grands événements culturels et sportifs pour maintenir à flot leur business, ça va avoir des impacts majeurs sur les classes populaires des derniers quartiers populaires, justement, du centre-ville, notamment au niveau là, de ça va être compliqué de louer des chambres, enfin tout ça. Ça va avoir un impact majeur, ça va redessiner la ville. Toutes les villes dans le monde où est-ce qu'il y a eu les Jeux olympiques, il y a eu cette compagnie de nettoyage social.
Systématiquement.
En plus d'un nettoyage social qui se fait aux frais des contribuables, c'est quand même spécial. Alors voilà, nous, on était là et pour distribuer de l'information. D'ailleurs, à ce sujet, on a un cause commune express qui est sorti juste pour l'occasion, que vous pouvez trouver sur notre blog. Ça s'appelle l'arnaque olympique. Et ben voilà, c'est sur Internet à voix de fait avec un X et un S. Blogspot.com. C'est notre petit grain de sel. Ils vont en avoir aussi qui vont traîner un peu partout en ville parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de passants, donc on n'en a pas passé beaucoup. Pas ouais, tant que ça.
J'ai passé ma pile.
Ah, moi aussi, j'ai passé ma pile, mais bon, on en avait 5-6 piles. Fait que...
Maudit.
Donc, Cause Commune Express qui présente en fait une perspective critique sur les Jeux Olympiques. Et si vous voulez en savoir plus sur les Jeux Olympiques de Vancouver, parce que bon, la Cause Commune Express parle des Jeux Olympiques en général, un peu de Vancouver, un peu de Québec et en général de qu'est-ce que c'est la problématique. Si vous voulez en savoir plus, précisément sur les Olympiques à Vancouver et les dommages collatéraux de tout ça, alors on vous suggère un site web No2010, donc pas de 2010, no, mais no2010.com. C'est un...
De toute façon, on va mettre l'adresse sur notre blog.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'informations. C'est un site autochtone anti-olympique, membre du réseau de résistance olympique. Et c'est vraiment un site qui est bien fait, qui est en anglais, mais qui donne beaucoup d'informations. Ou sinon, vous pouvez aussi chercher olympicresistance.net, ça c'est en anglais aussi, pour avoir plus d'informations. Et s'il va y avoir des protestations à la grandeur du Canada sur cette cause-là, c'est pas nécessairement la cause la plus sexy, c'est pas nécessairement non plus la cause la plus urgente, mais bon, il faut saisir les opportunités aussi quand elles se présentent à nous, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec...
Niveau urgent, c'est quand même...
Ben pour les gens de Vancouver, c'est urgent.
C'est là que ça se passe. Pour nous. Puis si nous, ici, on monte pas notre objection dès maintenant, ben les autorités vont se penser complètement légitimes. Quoique, même si on monte notre opposition, ils vont détourner ça. Ah, c'est du monde qui aime pas le sport.
Il y avait 30 anarchistes qui étaient contre les Olympiques, puis tout le reste de la planète était pour.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, ça, c'est important de le souligner en terminant. Faut pas penser que les gens qui sont contre les Olympiques sont contre le sport.
Bon, certains,
oui, là. Mais de fait, en fait, c'est que ça n'a rien à voir avec le sport et que l'esprit olympique participe de tout ce qui pervertit ce qui est beau dans le sport et ce qui est intéressant dans le sport. Et y a personne qui va jamais me faire croire que de se droguer pour réussir à atteindre des performances plus intéressantes, c'est sportif.
C'est louable.
Ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, on est rendu dans une situation, là. La course aux médailles, la course aux... En tout cas. Bref, si vous voulez en savoir plus, voix de fait avec un X et un S. blogspot.com ou no2010.com aussi. Voilà, c'était voix de fait. Puis là, on a de la musique.
Oui, on a le groupe British. En tout cas, une espèce de scission des trotskistes qui avait formé The Redskins, c'est-à-dire The Insiders, avec Working for the Man.
Sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec.
I'm working, man. Yes, I am. I say that I'm working.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec pour Voix de fil, émission du collectif Anarchiste la nuit. Ce soir, vous êtes en compagnie de Nicolas et de Farouko. Et on est rendu dans le bloc sur les finances publiques. Alors, des libertaires qui parlent de finances publiques, on peut se poser des questions, surtout qu'on en a déjà parlé un peu la semaine dernière avec Guillaume. Mais on revient sur le sujet parce que ce qui se passe avec les finances publiques est relativement important. Comme dirait Michel Chartrand, si t'occupes pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. On pourrait dire la même chose avec les finances publiques. Dans les faits, on est en train d'assister à un bel effort de propagande pour préparer un des plus... et continuer un des plus massifs transferts de richesses des poches des classes moyennes et des classes populaires vers celles des classes supérieures au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, mais au Québec en particulièrement. Là. Donc c'est de ça dont on va parler à la lumière d'un texte d'analyse du Frappru. François Saillant, coordonnateur du Front d'action populaire en réaménagement urbain, qui s'est penché sur la question des finances publiques dans le rouge. Dans un texte apparaît incessamment. Alors, c'est des informations qui sont sorties dans le cadre d'une nouvelle coalition contre les hausses de tarifs. En fait, les groupes populaires lancent une nouvelle coalition là, sur la question des hausses de tarifs et se penchent sur la question des finances publiques. Il faut recommencer à se pencher sur la question des finances publiques alors que, bon, c'était un peu moins important depuis quelques années vu que les gouvernements faisaient des surplus finalement. Donc, voilà. La crise après la crise, on n'est même pas sorti de la crise économique encore tout à fait, que déjà le Québec entre dans une autre crise qui s'annonce tout aussi aiguë et tout aussi difficile, la crise des finances publiques, qui est provoquée en fait par la volonté gouvernementale de revenir à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la crise économique a amené finalement des déficits et en soi, mais aussi par l'action gouvernementale, ils ont dépensé des sommes colossales pour essayer de relancer l'économie. Et le gouvernement a adopté une loi, la loi 40, à l'automne, pour se donner 3 ans, en fait, pour réduire graduellement le déficit et redevenir au déficit zéro. Alors ça se passe 13 ans après le sommet socio-économique de Lucien Bouchard. 13 ans après ça, donc, on est à nouveau conviés à se serrer la ceinture pour atteindre l'objectif sacro-saint du déficit zéro.
L'État est keynésien pour le capitalisme, mais quand vient le temps pour le social, l'État est libéral.
Et libéral, certain.
On travaille fort là-dessus.
Ben, justement, parlant de keynésianisme capitaliste, il y a, je vais sortir un peu de mon texte, mais pas de mon sujet, il y a justement les instituts néolibéraux. En ce moment, depuis quelques mois, peut-être un an, il reste plus grands économistes assez têtes de cochon pour continuer de dire que l'intervention de l'État dans l'économie, c'est pas bon. La plupart des gens qui faisaient ça par opportunisme et des patrons qui faisaient ça par opportunisme, aujourd'hui, sont bien contents qu'il y ait une intervention de l'État parce que c'est ça qui les a sauvés. Mais il y a encore quelques instituts néolibéraux qui maintiennent la ligne haute et qui restent, en fait, sur leur position fondamentale de réduction de l'État, des dépenses de l'État. Et là-dedans, il y a l'Institut Fraser qui a dû coupé dans son personnel, mais qui continue quand même de sortir des études. Oh, et l'Institut Fraser, l'Institut économique de Montréal, sont tous à staff réduit en ce moment parce que leur bailleur de fonds, c'est les grandes entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent à donner en ce moment.
Oui, mais l'Institut économique de Montréal doit tenir cette ligne-là aussi.
Oui, eux autres aussi, ils restent fondamentalement
libertariens.
Et là, on a sorti un chiffre qui, moi, m'a fait capoter un peu. On est revenu, ils ont fait une étude pan-canadienne pour savoir, en fait, combien il y avait de subventions à des entreprises profitables au Canada. Puis combien il y avait finalement de subventions économiques qui se payaient. Et on s'est rendu compte que le tiers des subventions au Canada venait du gouvernement du Québec. Le tiers de l'ensemble des subventions publiques au Canada vient du gouvernement du Québec.
Comptant le fédéral et le provincial.
Oui, et le municipal. Le gouvernement du Québec fait plus de subventions économiques pour le Québec que le gouvernement du Canada pour l'ensemble du Canada.
C'est pas...
Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que le gouvernement du Québec met 6 milliards par année en subventions économiques qui... 6 milliards par année qui vont en subventions pour l'économie. Donc, et comme par hasard, le déficit est à peu près de cette ampleur-là. Et on se demande finalement du côté des néolibéraux si c'est absolument essentiel. On peut se poser la même question.
Donc, il n'y a pas de déficit.
Mais il y en a un, mais il y en a pas. Mais c'est sûr que dans certains cas, c'est des subventions qui sont bienvenues. Effectivement, il y aurait des pertes d'emploi, ça nous mettrait dans la merde si on coupait complètement les subventions. Mais ça peut poser des questions. Il y a quand même 6 milliards de dollars par année qui vont à subventionner l'économie. Il faudrait voir combien il y en a qui vont dans les autres postes budgétaires. Alors là, on est en déficit. En 2009-2010, on devrait avoir un déficit de 4,7 milliards. Si on se fie au ministre, ça devrait monter à 11 milliards, 11,3 milliards en 2013-2014 si le gouvernement n'avait pas adopté les mesures prévues dans le budget de mars 2009, s'il n'y avait pas la volonté d'en adopter de nouvelles. Donc, ils disent, on a un déficit, on se dirige vers un déficit d'à peu près 12 milliards, faut faire quelque chose. Alors, c'est une situation qui s'explique non pas seulement par les subventions économiques, dans la mesure où les subventions, il y en avait avant la crise, puis il va en avoir après, puis quand même, il n'y avait pas nécessairement de déficit, mais c'est essentiellement qu'il y a une baisse de revenus du gouvernement et les mesures de relance de l'économie, les mesures ont amené une hausse des dépenses. Mais quand même, au Frappru et dans les groupes populaires, on tient à souligner que la crise économique n'est pas la seule responsable du retour des déficits. Elle a le dos large, la crise, mais il faut aussi savoir que les gouvernements successifs du Parti québécois puis du Parti libéral ont accordé des baisses d'impôts à 3 reprises au cours des années 2000 et en fait, on privé, entre guillemets, le Québec de 5 milliards de revenus par année. Les baisses d'impôts cumulatives des péquistes et des libéraux depuis une décennie, c'est 5 milliards de dollars. Donc,
ouais, mais c'est pas dans nos poches à nous.
Non, mais c'est quand même, c'est pas dans nos poches à nous, c'est dans les poches d'un peu tout le monde et surtout des plus forts revenus, des gens qui avaient le plus de cash. Et donc, ils se sont privés de 5 milliards en impôts. L'impôt étant vaguement progressif. Et d'autre part,
il y a de moins en moins de paliers.
Ben c'est justement ça, c'est une autre affaire qu'on ramène, qu'on n'entend pas souvent. Et d'autre part aussi, il faut savoir que ça c'est un tour de passe-passe. Moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre, mais le gouvernement Charest a, comme on le sait, laissé passer l'occasion d'augmenter ses revenus en allant récupérer les 2 points de taxation qui ont été abandonnés par le gouvernement fédéral quand il y a eu la réduction de la TPS.
Ouais, mais il va pas aller chercher l'an prochain.
Oui, sauf que le problème, c'est que on s'est fait fourrer 2 fois parce que quand le gouvernement fédéral a baissé la TPS, la plupart des prix n'ont pas baissé.
Mais non.
La baisse a été récupérée par pas partout, pas dans tous les commerces,
non,
pas dans tous les biens.
Ils avaient baissé leurs prix.
Mais elle a été récupérée dans la majeure partie. C'est pas vrai que les gens se sont retrouvés avec 2% de plus d'impoche.
Mais non.
C'est pas vrai du tout. Sauf que vu qu'ils l'ont pas fait, s'ils avaient fait d'une claque le gouvernement provincial, les prix n'auraient pas changé non plus.
Non.
Mais vu qu'ils ont attendu pour le faire, les prix vont augmenter de 2% si ils vont le récupérer. Donc, on s'est fait avoir à ce niveau-là. C'était pas une bonne idée de faire ça. L'autre chose qu'il faut savoir sur les finances publiques, c'est que le gouvernement, pour s'en sortir, l'idéologie gouvernementale, et c'est aussi ce qu'on entend dans les médias, c'est que il faut comprimer les dépenses et augmenter les revenus. Et ce qu'on se suggère de faire, c'est non pas de couper dans les dépenses gouvernementales, mais d'essayer de contrôler l'augmentation des dépenses gouvernementales pour ne pas avoir à faire de révision de programme et ne pas avoir à se poser de questions sur ce qui est intéressant ou pas intéressant. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que quelqu'un qui se pose des questions, c'est rarement pour choisir les mêmes choses qu'on choisirait. Mais on va comprimer les dépenses et des revenus augmentés. On pense essentiellement à aller les chercher par le biais de tarifs. On parle d'augmenter l'hydroélectricité, on parle d'augmenter les frais de scolarité, on parle d'augmenter tout un ensemble de tarifs. Et là, on peut se poser des questions parce que les maudits tarifs, là, c'est régressif, c'est le contraire de l'impôt. C'est-à-dire que les tarifs, vu qu'ils sont flats puis tout le monde paye les mêmes, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que proportionnellement, moins t'as de sous, plus ça te coûte cher.
Et voilà, sauf qu'eux, ils trouvent le moyen de te dire, dans les frais scolaires, entre autres, et dans l'hydroélectricité, que c'est le contraire.
Oui, mais au Québec, l'hydroélectricité, là, on s'entend-tu là, que, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau les économies d'énergie, là, et c'est possible, il faut continuer d'en faire, mais c'est pas en augmentant. les gens ont
non,
pas
mais
le
ça,
choix.
C'est le discours de droite, et les gens sont trop cons pour faire de l'économie d'énergie, fait qu'on va leur faire payer.
Et on va augmenter la TVQ.
Sauf que c'est pas moi, en tant que locateur, qui a foutu des calorifères électriques.
Mais non.
C'est les constructeurs. C'est eux qui. Et les propriétaires, ça coûte moins cher. Et le prix où il devrait être changé, s'il voulait changer de quoi, c'est dans l'appareil de chauffage.
Ben
la
oui,
facture serait au propriétaire et au constructeur, mais là, on n'en parle pas.
Et de fait, on est en train finalement de faire porter ça, le fardeau, sur l'ensemble de la population, alors que c'est pas l'ensemble de la population qui fait les choix et que tout le monde en profite pas de la même façon. Donc, d'un côté, on a enlevé 5 milliards d'impôts, essentiellement chez les gens qui avaient un peu plus de sous. Et de l'autre côté, on va aller chercher un 5 milliards dans les poches d'un peu tout le monde, dont proportionnellement, ça va être plus les gens qui n'ont pas de sous qui vont écoper. Mais on se dit qu'il y a d'autres avenues qui sont possibles, même si on n'en parle pas dans les médias, même si les faiseux d'opinion n'en parlent pas, même si les néolibéraux, ça ne les intéresse pas, au frappru dans les groupes populaires, ce qu'on dit, c'est qu'il faut refuser la logique dans laquelle le gouvernement Charest veut nous enfermer, comme l'avait fait d'ailleurs avant lui le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard en 96. Faut le savoir, là, pour cette question-là, péquistes libéraux, c'est du pareil au même. C'est la même maudite affaire.
En plus, il n'y a personne... En réalité, Hydro-Québec, pourquoi c'est peu cher? Un, ça a été nationalisé. Et deux, les gens, les médias ne disent pas pourquoi ça a été nationalisé. Hydro-Québec a été nationalisé. En fait, l'électricité au Québec a été nationalisée dans deux objectifs. Un, la sécurité électrique, la sécurité énergétique, qu'on a vu quand on s'est sauvé du blackout. Et c'est là 4-5 ans qu'il y avait un blackout en Amérique du Nord. Et deux, tarifs accessibles, parce qu'au Québec, on a un hiver.
Et oui, ben ça, en fait, c'est aussi une mesure d'intervention économique.
Ben oui, mais là, ça, on le balaie du revers de la main, on veut vendre Hydro, puis on veut revenir à avant.
Et oui. Et donc, il faut refuser cette logique-là. Puis, il y a d'autres avenues, en fait, qui sont possibles et qu'il faut examiner. Bon, premièrement, la première affaire, c'est vrai que les déficits, ça a des conséquences sur la situation budgétaire du Québec. L'intérêt de la dette, là, le service de la dette, c'est le deuxième poste en importance dans le budget du Québec. Et donc, effectivement, plus ça augmente, plus ça réduit la marge de manœuvre. Ceci dit, c'est pas vrai que l'échéance de 2013-2014 est nécessairement la bonne et on peut se poser des questions sur les choix qu'on a à faire et si effectivement ça doit se faire dans cet échéancier-là. Donc la première affaire, c'est de refuser l'échéancier. La deuxième chose, c'est de voir qu'il y a d'autres sources de revenus qui sont possibles, non seulement pour réduire le déficit, mais aussi faire face à des dépenses additionnelles. Parce que dans la réalité concrète, si on mène des batailles, mettons qu'on réussit à mener une lutte efficace au niveau de la lutte à la pauvreté, et donc on aurait une lutte efficace contre la pauvreté, ben ça implique nécessairement des nouvelles dépenses si on décide de mener une lutte efficace contre la pauvreté. Si on réussit à avoir un réinvestissement majeur dans les services publics, les programmes sociaux, ça implique de nouvelles dépenses. Si on se retrouve avec un front commun syndical, 550 000 employés de l'État qui sont en négociation, ça implique aussi des nouvelles dépenses. On peut pas juste toujours comprimer les dépenses.
Oui, puis c'est des dépenses légitimes.
Mais en fait, c'est des choix politiques. On essaie de nous les présenter comme étant des choix administratifs, des choix financiers. On n'a pas le choix, on n'a pas les moyens, il faut vivre selon les moyens, mais dans les faits, c'est des choix politiques. Et contrairement à ce qu'affirme le ministre Raymond Bachand, contrairement à ce qu'affirme le premier ministre Jean Charest, contrairement à ce qu'affirme l'ensemble des idéologues, il y a d'autres avenues. Et notamment, ça, on ne sera pas populaire en disant ça, mais du côté de l'impôt des particuliers et des sociétés, il y a des choses, il y a des sous à aller chercher, puis c'est de ce côté-là qu'on devrait aller chercher bien plus que du côté des tarifs et du côté des taxes.
Au fond, il faut prendre en commun la charge.
Ben oui, mais il y a une chose, là, tu disais tantôt l'aspect plus ou moins progressif de l'impôt au Québec, il est moins progressif qu'il a déjà été. On a tendance à pas s'en souvenir, mais aujourd'hui, au Québec, il y a 3 paliers d'imposition, de 16 à 24 %.
Et de mémoire, il y en avait 10.
Dans les années 80, il y en avait 5.
5? Je pense qu'il y en avait
le dernier, c'était 33 %. C'était pas la fin du monde, là, 24 à 33. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas revenir à plus de paliers d'imposition?
Ils disent que c'est beaucoup de gestion puis beaucoup de paperasse.
Ben,
c'est
pas nécessairement des questions de gestion puis de paperasse, mais à un moment donné, il faut voir, là, tu sais, c'est comme s'il y a des sous, est-ce qu'on peut aller chercher les sous de façon plus équitable? D'autres choses aussi, Une affaire qui est complètement ridicule. On a tout un ensemble de déductions fiscales. Il y en a qui pourraient être abolies ou réduites.
Ouais, plus t'as d'argent, plus t'en as de déductions.
Oui, mais si on prend un cas qui est profondément injuste à mon avis, mais bon, là-dessus, péquistes et libéraux s'entendent dans des kisses, t'as les gains de capital. Les gains de capitaux réalisés par les particuliers, actuellement, c'est imposé seulement à 50%. Sauf que, quand c'est un gain de travail, c'est imposé à 100%. Le salaire que t'as, toi, il est imposé à 100%. 100% okay, du salaire que t'as est imposé. Sauf que si t'as des actions puis que t'as un dividende qui t'est payé,
000, mais c'est imposé
c'est sur 5 000 qui est okay. imposé. Ben ça, c'est profondément, c'est pas juste. En abolissant, là, en allant chercher... D'après les chiffres même du gouvernement, là, du ministère du Revenu, là, en réduisant de moitié l'imposition des gains de capital, on a perdu 854 millions en 2008. Ça a coûté 854 millions de réduire la taxe sur le capital.
Et puis faites-vous-en pas, c'est pas moi puis toi qui
non, c'est pas moi puis toi qui t'es allé chercher ça. L'autre affaire aussi qui serait intéressante à regarder, c'est la question des REER. C'est pas très populaire de parler des REER, sauf que actuellement il y a un montant maximal qui est complètement hallucinant sur les REER. Tu peux mettre 21 000 piastres par année dans ton REER, OK? Sauf que on s'entend-tu que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui met 21 000 dans son REER. En 2006, les particuliers qui avaient gagné plus de 100 000 piastres dans l'année sont allés chercher 24 % des déductions pour un REER, même s'ils ne représentent que 3 % des contribuables. Donc concrètement, si on pouvait abaisser le plafond des REER à un niveau qui est plus proche de celui que la classe moyenne peut réellement mettre de côté, on n'irait pas à grand monde, on n'irait finalement seulement aux riches qui s'en servent comme une déduction fiscale. D'après le ministère des Finances, les déductions des REER, là, c'est 2,5 milliards d'impôts par année qui ont été détournés par cette forme-là. C'est correct de mettre de l'argent de côté pour sa retraite et tout, mais on peut tous s'entendre qu'on pourrait fixer des barèmes qui sont accessibles aux classes ouvrières, aux classes populaires, aux classes moyennes, mais qui vont pas chercher, tu sais, pas des choses qui vont engraisser puis encourager ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Puis il y a plein d'autres avenues qu'on pourrait envisager pour aller chercher plus de revenus. Entre autres, mettre davantage à contribution tous les individus, les sociétés, les compagnies qui payent pas leur juste part. Par exemple, on le sait, on l'a vu, il y a un scandale avec les compagnies minières qui payent presque pas de redevances. Il y a un scandale avec les compagnies forestières qui payent presque pas de redevances.
Ils ces compagnies-là sont ultra subventionnées.
Sont ultra subventionnées. Ces compagnies-là exploitent nos ressources naturelles, puis le trésor public en tire à peu près rien. Sinon, les impôts qui sont imposés à leurs travailleurs.
Et voilà, c'est toujours comme ça qui est justifié.
Mais ça n'a pas de bon sens. C'est des possibilités qui manquent pas. C'est pas le genre de discours qui va faire plaisir aux libéraux, aux néolibéraux, faiseux d'opinion, mais c'est quelque chose qu'il faut dire. Et bon, ça a l'air particulier un peu que les annards parlent de ce genre de questions-là, mais c'est une question de rapport de force, une question de redistribution de la richesse, et en attendant la socialisation complète des richesses, il faut quand même, c'est dans nos intérêts de classe, disons-le comme ça, d'aller chercher le maximum.
Bord.
Parce qu'eux, l'autre bord, ils connaissent leurs intérêts de classe, puis ils savent où sont leurs intérêts, et donc ils agissent en conséquence, et pourquoi nous, on le ferait pas, même si effectivement, c'est peut-être pas populaire de dire que chacune devrait payer sa juste part d'impôts, et donc financer les services comme du bon sens. Autrefois, pour finir là-dessus, les autonomistes italiens, les anarchistes italiens, les autonomistes, les communistes italiens, n'étaient pas nécessairement en compte, ça. Eux autres, comment ils appelaient ça, là, l'ensemble des programmes sociaux, ces affaires-là, ils disaient que c'était la part sociale du salaire.
Ben oui.
Et voilà. C'est pas nécessairement des dépenses, c'est pas nécessairement de l'argent qu'on vient te chercher dans tes poches. Faut le voir comme la part sociale du salaire.
Sauf qu'il y en a beaucoup qui s'engraissent avec ta part sociale.
Ben oui, ben c'est pour ça, justement, qu'il faut tenir un contre-discours et qu'il faut développer les rapports de force pour réussir à ce que ça aille un peu moins mal.
Oui, monsieur.
C'était ça pour moi à ce chapitre. Donc, oui. Donc, on a de la musique, hein?
Oui, j'ai été vous chercher. Le dernier album des Agrolites avec The Sufferer, avec mon excellent anglais, The Sufferer.
Donc sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de fait.
reputation. He cut costs as much as he can with no investigation.
De retour à Sequoia 88.3 à Québec, toujours en écoutant Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste de la nuit. Je voulais absolument vous parler d'un bouquin qui vient de sortir chez Lux. Lux, les éditeurs montréalais, les éditeurs sociaux, politiques, anarchistes, enfin nationalistes de gauche, enfin bref, Lux. Les anciens Commonado éditeurs, qui ont sorti un truc dans leur collection Mémoire des Amériques. Ça vient de sortir, ça s'appelle Révolutionnaire du Nouveau Monde, une brève histoire du mouvement socialiste francophone aux États-Unis, 1885-1922. C'est l'historien Michel Cordillo qui nous sort ça. Et comment il présente ça? C'est que lui, Michel Cordillo, il travaille depuis plusieurs années sur un projet monstrueux qui existe en France qui s'appelle le Métron. C'est le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. C'est une grosse affaire. Et lui, il est spécialiste des francophones aux États-Unis. Mouvement ouvrier français, on s'entend. Et il est spécialiste des francophones aux États-Unis. La petite plaquette qui vient de sortir chez lui, c'est comme une espèce d'introduction générale au mouvement socialiste francophone aux États-Unis pour servir à ce truc-là. Et c'est vraiment fascinant parce que si l'histoire du mouvement ouvrier socialiste américain est relativement connue, personne jusqu'à maintenant s'est arrêté au rôle joué par l'immigration française. Et pourtant, ça a été un rôle majeur. Dès 1885, dans les communautés minières de Pennsylvanie, il y a un vigoureux mouvement socialiste francophone qui voit le jour. C'est un mouvement dont la vie est structurée autour d'une série de journaux anarchistes et anarchistes communistes. Alors, des journaux qui s'appelle La Torpille, Le Réveil des Masses, Le Réveil des Mineurs, La Tribune Libre, L'Union des Travailleurs. Et en fait, c'est des journaux qui sont animés par, au début, c'est un gars qui est un communard dont j'oublie le nom, j'oublie les noms des deux animateurs de ces journaux-là, mais qui sont en fait des piliers du mouvement. Et au départ, le journal est vraiment... Le mouvement est vraiment anarchiste, là, issu de la Commune de Paris, très anarchiste communiste, pur et dur. Ils trippent sur Kropotkin, sur Jean Grand, ils reçoivent le révolté, par la propagande, par le fait. Ils sont vraiment, tu sais, c'est comme ils sont dedans, là, puis vraiment dedans. Mais au fur et à mesure qu'ils s'américanisent, leur anarchisme se dilue un peu, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'intègrent quand même. Et ils deviennent plus syndicalistes, puis plus socialistes libertaires. Ils finissent socialistes, en fait. Mais c'est le même mouvement, là. C'est les mêmes correspondants, les mêmes gens qui, sur une trentaine d'années, finissent par devenir socialistes. Socialistes, on s'entend, à l'époque, c'était quand même marxiste, ça voulait quand même dire qu'ils étaient pour la socialisation des moyens de production. La grosse différence, en fait, c'est que ils sont mis à se faire naturaliser pour pouvoir voter pour le Parti socialiste américain de Leon et tout ça. Et donc, au début, c'est un mouvement anarchiste qui, tranquillement pas vite, s'est américanisé et qui est devenu socialiste. Mais c'est un mouvement aussi qui est très particulier parce qu'il y a un ancrage puis une permanence qui est vraiment fondamentale. L'Union des travailleurs au plus fort du mouvement, c'est un hebdomadaire en français aux États-Unis qui est diffusé dans 750 communautés minières. Et qui repose sur 200-300 diffuseurs, des groupes là, qui se mettent ensemble pour faire le journal. Il y a sa propre imprimerie, il y a une coopérative, vraiment c'est la grosse affaire. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que les immigrés politisés organisent littéralement la vie de l'ensemble de la communauté immigrée française aux États-Unis, notamment parce qu'ils publient en français une presse dont les pages sont largement ouvertes à tout le monde, jusqu'au corps du matériel des journaux, qui est fourni par les lecteurs et qui est composé de nouvelles brèves sur l'état des mines, sur tel patron il paye pas, sur il y a de l'eau dans telle mine, sur à telle place ça va pas bien, il y a de la job, il y a pas de job, ce genre de trucs-là. C'est vraiment fascinant et en plus, il y a toute une série d'associations qui sont liées à ce mouvement-là qui structure la vie de la communauté. Ça va de groupes de lecture à des bibliothèques, à des imprimeries, à juste des associations francophones dans le monde et tout. Et c'est vraiment intéressant. Et là, finalement, la dernière chose qui est intéressante avec ce bouquin-là, c'est qu'aussi, il y a... Le mouvement concerne essentiellement au départ les communautés francophones d'origine européenne. Les Belges, les Français, quelques Suisses, surtout des mineurs, surtout des gens qui ont été blacklistés en France, en Belgique, puis qui sont aux États-Unis pour pouvoir travailler dans des villes, dans des affaires, vivre tout simplement, et qui font un syndicalisme. Mais c'est des gens qui sont quand même un peu repliés sur eux-mêmes et tout. Puis, il n'y a pas de jonction avec... Ils sont pas capables de créer un mouvement immigré de masse parce que les Français, ils sont 250 000 aux États-Unis. Ils font pas le poids face aux Allemands, ils font pas le poids face aux autres. Mais il y a une autre communauté francophone qui est très, très, très importante aux États-Unis, mais qui est pas dans les mines. Et c'est les Canadiens français.
Les ports et les...
Les Canadiens français sont dans le textile.
OK,
beaucoup.
Parce que je suis en train de lire un livre sur le port de Québec, là, mm-hmm. 1850 à 1900. Qui est beaucoup, mais en fait, c'est vrai, c'est des Irlandais. Mm. L'hiver, ici, ils allaient au port dans le sud des États-Unis.
Et c'est ça. Puis les francophones, au début, ils les voient surtout comme des... Ben, les Canadiens français qui sont aux États-Unis, au début, ils ne s'intéressent pas vraiment à eux parce qu'ils les voient comme une gang de arriérés, catholiques, pas syndicaux, mais tranquillement, pas vite, ils syndicalisent. Et c'est très comique parce qu'au moment où la jonction s'opère, finalement, entre les communautés françaises et les communautés canadiennes françaises de gauche, c'est parce que les Industrial Workers of the World, les syndicalistes révolutionnaires, ont mis sur pied la Fédération française du textile en Nouvelle-Angleterre en 1905-1906. C'est une fédération qui émerge chez les Québécois exilés aux États-Unis pour travailler, et ça rend possible un activisme socialiste dans une communauté que les Français et les Belges méprisaient puis trouvaient conservatrice et attachée au catholicisme. D'ailleurs, c'est sur les presses de l'Union des travailleurs, qui est à l'époque un journal socialiste finalement, qui n'est plus un journal socialiste libertaire, qui est imprimé un journal anarcho-syndicaliste qui s'appelle L'Émancipation et qui est le journal de la Fédération française du textile. Donc, c'est vraiment intéressant. Et dans la foulée, l'Union des travailleurs fait des excursions au Canada. On trouve l'éditeur du journal en tournée à Montréal, à Québec au début du siècle. Il rencontre plusieurs syndicalistes influents. Dans la liste d'abonnés de 1905, 1906, 1907. Dans la liste d'abonnés de l'Union des travailleurs, on trouve beaucoup de syndicalistes montréalais, Rodier chez les typographes, Charbonneau chez les boulangers, Pelletier chez les peintres, Albert Saint-Martin qui était l'organisateur du premier...
Tu m'étonnes pas avec les typographes.
Oui, Albert Saint-Martin qui était l'organisateur du premier mai à Montréal. Même à Québec, il y avait un agent pour gérer les abonnements locaux et les ventes de l'Union des travailleurs, c'était L.G. Autier du syndicat des typographes. Alors le monsieur travaille pour le Soleil.
Et voilà.
C'est des ouvriers qualifiés. C'est
du monde les typographes très... sont historiquement excessivement syndicalisés.
Et l'histoire ne dit pas c'est quoi l'impact qu'a eu ce journal socialiste franco-américain sur le jeune mouvement socialiste québécois d'avant-guerre, mais c'est quand même très intéressant. Alors, c'est un petit livre qui est utile, parce qu'il lève le voile sur un pan méconnu de l'histoire de la gauche francophone en Amérique du Nord. T'sais, personne ne le sait qu'au tournant du siècle, il y avait un hebdomadaire socialiste en français qui était diffusé dans 700-800 villes. T'sais, c'est vraiment pas connu. Et c'est à lire, entre autres, pour se rappeler que la lutte pour l'égalité économique et sociale ne date pas d'hier, ni même, en fait, des années 60. Je vais y aller très rapidement sur les quelques plugs de cette édition de Voix de fait. Alors, premièrement, le 6 décembre, 20 ans après la tuerie de la Polytechnique, ne restez pas seul chez vous. Il y a le comité politique de l'HD qui invite toute la populace au visionnement du film Rebelle, le film Féminisme Uncensored, un film qui a été réalisé par Marie-Noëlle Arsenault. Alors, par des témoignages de femmes, de la musique, des images d'actions féministes et des extraits d'ateliers, ce documentaire nous plonge au cœur du rassemblement pan-canadien des jeunes féministes toujours rebelles qui a eu lieu en octobre 2008. On y découvre un féminisme bien vivant à travers des jeunes... Mon Dieu Seigneur.
Oui, ton ordi te crie après.
Mon ordi me crie après. À travers des jeunes femmes de partout au pays qui ont en commun l'intelligence, l'espoir, l'indignation et bien plus encore. Alors, le film va être suivi d'une discussion et une représentante du secrétariat du mouvement Rebelle. Bienvenue à toutes et à tous et aux autres. C'est le 6 décembre 2009 à 19h à la JT au 251 Dorchester. Et mes deux dernières plugs pour terminer. On aura sûrement l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, sauf que vendredi, le 11 décembre, c'est une grosse journée. Il y a trois choses, en fait, qui sont intéressantes. D'abord, à midi, il y a une manifestation des groupes populaires contre la consultation, en marge, en fait, de la consultation du ministre Sam Ahmad sur le deuxième plan de lutte à la pauvreté. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez appeler au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, tiens, 418-522-0454. J'ai pas le numéro de téléphone du REPAC, pas loin.
Maudit.
Sinon, il y a aussi le souper du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec en soirée. C'est le même numéro de téléphone. Et toi, t'as une plug aussi, hein?
Moi, c'est la semaine prochaine.
Ben, vendredi le 11 décembre, il y a aussi un clash reggae à la JT.
C'est important.
Après le souper du fond.
Oui, on va souper au fond, puis on descend à la JT.
Notre Texan va être... Faruko va être sur les platines. Voilà.
Sur le stage au micro.
Sur le stage au micro, c'était Voix de fait avec Nicolas.
Et Faruko.
Alors, si vous vous ennuyez de nous cette semaine, vous pouvez aller visiter notre blog, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Sinon, ben, continuez d'écouter la radio la plus à gauche de la bande FM. Wow, wow, wow. Hey!